Alors, il est 6 heures, nous sommes lundi 25 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec une journée de pluie. En tout cas, ce matin, il y a des averses qui sont prévues. Ça devrait cesser au cours de l'après-midi et ça demeure quand même assez nuageux. Il y a même un risque d'orage ce matin avec un maximum de 24. Pour ce qui est de demain, c'est le début d'une vague de chaleur de 3 jours pour le Grand Montréal. Alors, ça veut dire quoi? C'est du soleil demain. Avec quelques nuages au cours de l'après-midi, le maximum prévu 32, l'humidex sera à 37 degrés. Pour ce qui est de mercredi, c'est du soleil, encore là, 32 degrés. Et jeudi, on prévoit soleil-nuage avec maximum autour de 29 à 30 degrés. Donc, c'est vraiment là, mardi, mercredi, jeudi, en plein milieu de la semaine, on se retrouve avec ces journées très chaudes. Pour ce qui est de vendredi, pour l'instant, on prévoit des averses et autour de 25 degrés. D'ailleurs, regardez les prévisions météo tantôt et je pensais à la situation, notamment dans les centres de soins de longue durée où il n'y a pas d'air climatisé. Juste qu'on réalise là, qu'on se retrouve avec des gens qui sont confinés à l'intérieur, pour la plupart, depuis le début, des gens qui peuvent presque pas sortir. Il va faire 32, 33 degrés et pas de source de fraîcheur, là. Puis le personnel qui porte les équipements de protection avec les masques, les visières, ça va être quelque chose là, à endurer. D'ailleurs, je dois vous dire, là, depuis le temps qu'on parle de la fameuse climatisation, je me demande si c'est fait quelque chose de très concret ou si ça fait partie des discours, là, des espèces de phrases creuses lancées par les politiciens. T'sais, je comprends qu'on ne peut pas climatiser tous les centres de soins de longue durée en 2 semaines, mais est-ce que dans un an, on en a quand même équipé ou si ça fait partie là, d'une stratégie un peu fumeuse dont on connaît peu de détails? D'ailleurs, quand on regarde le bilan qui a été présenté hier, il faut s'attarder aux chiffres, et on est rendu à pratiquement 4000 morts au Québec, tout près, là, 44 décès dus à la COVID-19, ce qui, je dirais, vient un peu dans la tendance qu'on observe depuis déjà quelques jours, d'une tendance à la baisse. Le nombre d'infections s'est augmenté de 573. Et ce qui est important, c'est de surveiller les gens qui sont hospitalisés. Le nombre, là, c'est presque 1400, un petit peu plus, là, que personnes hospitalisées. Et pour ce qui est des gens qui sont aux soins intensifs, c'est 170. Donc, il n'y a pas de baisse marquée. C'est comme une barre qui a tendance à demeurer stable. Et ce sont les indices les plus importants, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent, puis également le nombre de gens qui sont, comme ça, hospitalisés. D'ailleurs, parmi les décès, encore une fois, on retrouve un préposé aux bénéficiaires, 4e décès. C'est un monsieur qui, père de famille, père de jeunes enfants, qui œuvrait dans un CHSLD, zone rouge de l'Est de Montréal. Il a travaillé à l'hôpital chinois de Montréal aussi. On va parler avec une collègue de travail un peu plus tard ce matin. Mais c'est quelqu'un qui a été foudroyé comme beaucoup d'employés du réseau de la santé. Et selon ce qu'on a appris hier, ça fait plus qu'un mois qu'il était aux soins intensifs et que malheureusement, donc, il a perdu la vie. Le décès a été confirmé jeudi et annoncé hier. Alors, vous imaginez la réaction de ses collègues immédiatement bouleversés, des gens qui travaillaient avec lui, puis aussi ceux qui l'ont connu à l'époque de l'hôpital Montréal-Chinois. Et d'ailleurs, on peut se demander, parce que le nombre d'employés du réseau de la santé qui sont infectés est énorme. Et est-ce que les gens ont de la difficulté, je parle des employés, nouvellement formés, de certains bénévoles, apporter l'équipement de protection de bonne façon. Parce qu'on le voit, là, le nombre de gens contaminés, malgré le fait qu'ils ont, en principe, l'équipement de protection, ça demeure très élevé. Je comprends qu'au début, on n'avait pas de masque. Ou en tout cas, c'était pas mal serré comme gestion. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment le porter. Je regardais plusieurs lettres ouvertes de spécialistes qui disent que, théoriquement, les travailleurs sont bien protégés. Dans la presse, ce matin, on nous dit qu'il y a environ 5 000 travailleurs qui sont infectés par la COVID. et que ces travailleurs-là ont aidé à propager. L'autre réalité aussi, c'est cette navette, ce va-et-vient entre les zones chaudes et les zones rouges. Ça se fait encore, malgré les grands discours de Mme Mécan, là, il y a encore des gens qui passent d'une zone à l'autre. On connaît le principe du gouvernement du Québec. Dans un centre de soins de longue durée, tu peux pas. Tu es dédié à une zone. Tu peux pas aller dans les deux. Dans les hôpitaux, tu peux partir d'une zone froide pour aller dans une zone chaude, mais tu peux pas faire l'inverse. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des questions à poser sur cette crise dans les centres de soins de longue durée. Comment on a pu en arriver là? On connaît quelques grands principes, là. Mais quand même, je pense que c'est important de ne pas perdre de vue cet objectif, surtout qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Est-ce qu'on est prêt en termes d'équipement? Ça a l'air que oui. En termes de personnel, pantoute. Et particulièrement pour les centres de soins de longue durée. Bon, cela étant dit, un mot sur les rassemblements de la fin de semaine. D'abord, je pense qu'on tous étaient à même de constater, là, d'abord, il faisait très beau, puis les gens en ont profité pour se promener. Je regardais aussi en Ontario, où il y a eu des rassemblements, et disons que, un peu comme partout, la règle du 2 mètres était plus ou moins suivie. Et même les autorités de santé publique en Ontario, vous pouvez lire ça ce matin, dans le Globe and Mail, notamment le responsable de Toronto, et même le premier ministre Doug Ford, qui ont dit que des gens avaient des attitudes égoïstes et dangereuses, qu'ils se foutaient des autres et que de respecter le 2 mètres, de porter le masque, ben c'est un signe de respect, c'est un devoir civique de justement protéger les autres. Alors qu'il y en a qui s'en foutent carrément. Puis vous avez plein de gens qui m'ont écrit en fin de semaine pour témoigner de ça, là, en disant que moi, ce que j'ai vu, pas sorti beaucoup, mais ce que j'ai pu observer un peu, c'est qu'il y avait quand même ça. Mais tu sais, les réflexes, ça change difficilement. Je regardais samedi, j'étais parti faire un tour de vélo, puis je vois un gars et une fille à l'intersection qui étaient devant un commerce, puis ils se donnent la main. Peut-être qu'ils sont ensemble, peut-être c'est pas grave, mais tu sais, ça fait un peu bizarre, là. On se donne plus de la main trop tôt de ce temps-là. Et en parlant des commerces, ça rouvre aujourd'hui pour le Grand Montréal avec un paquet de mesures qui ont été annoncées. Donc, pour ce qui est du Grand Montréal, là, vous retrouvez aujourd'hui les commerces qui ont pignon sur rue, donc pas des centres commerciaux. Vous allez retrouver des concessionnaires auto. Je pense que ça recommence aujourd'hui, mais encore là, il faut prendre rendez-vous. Il y a une série de mesures là, qui doivent être implantées dans les garages. Je suis allé vendredi pour l'entretien du véhicule, puis là, je voyais qu'on se préparait, là. C'est-à-dire que les portes des véhicules sont barrées, il y a des mesures qui sont prises. Je sais que pour ce qui est des transactions, idéalement, des signatures à distance. En gros, chacun des propriétaires de ces commerces a dû prévoir une gestion. C'était vrai pour les trucs alimentaires, là, les boulangeries et tout ça, où tu attendais en ligne, les quincailleries. Puis je regardais ça, puis je vais vous poser la question peut-être plus tard ce matin ou plus tard cette semaine. Mais le temps qu'on va perdre à attendre, tu sais, avant, tu rentrais à l'épicerie, tu allais te chercher un bidule, puis tu ressortais. C'était rapide, il y avait une caisse rapide. Tu rentrais dans une quincaillerie en sachant exactement ce que tu voulais, tu perdais pas trop de temps. Je regardais ça vendredi dans Griffintown, petite quincaillerie sur Notre-Dame, il devait y avoir 15 personnes à peu près qui attendaient, là, patiemment, que les gens puissent avoir accès parce que tu as le questionnaire, il faut que tu te laves les mains, il n'y a pas plus de temps de clients à l'intérieur. À l'expérience du magasinage, c'est pas bien ben tentant, là. Je ne veux pas décourager les commerçants ce matin, là, qui se battent. Alors, j'imagine qu'il y aura du monde aujourd'hui. Mais je pense en même temps que, disons, le commerce en ligne qui commençait à se déployer très fortement, qui a pris un autre envol avec cette crise-là, risque de demeurer. Puis c'est vrai que c'est long. C'est vrai que Post-Canada déborde. Puis là, à qui la faute chez Post-Canada? Les employés me disent que c'est pas très bien gérée, qu'on refuse le temps supplémentaire. Poste Canada nous répond que c'est pas de leur faute. Donc, la commande est tellement énorme, puis on n'a pas le personnel requis. En tout cas, il faut être patient. Si tu vas dans un magasin, il faut que tu sois patient, parce que tu vas attendre, de façon générale. Puis si tu commandes en ligne, il ne faut pas que ça soit trop pressant non plus. C'est un délai de 10 jours, puis parfois, c'est même plus. Puis il y a plein de gens qui me donnent des exemples, là, à part des masques, là, de trucs qu'ils ont commandés. Et c'est toujours en attente. Alors, on verra comment ça va se passer dans les magasins. Puis il y a des commerçants qui ont décidé d'attendre avant de rouvrir. L'autre chose également, c'est le métro. Là, il y a une opération ce matin, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de clients dans le métro, pour distribution de masques. Et on sait que le masque n'est pas obligatoire. On sait qu'il est fortement, très, très fortement recommandé. Pourquoi? Bien, parce que vous êtes dans une zone fermée, puis vous risquez d'être tassés les uns sur les autres. Et je rappelle toujours le principe, c'est de respecter les autres, pour ne pas les contaminer que d'avoir un masque. Puis si tout le monde porte un masque, bien, ça vient comme atténuer le problème. Alors, il y aura donc sensibilisation ce matin. Et j'écoutais le point de presse quand M. Legault disait, bien, si on met une interdiction, bien, il faut qu'il y ait une sanction. La sanction est facile à appliquer. Moi, ce bout-là, là, d'abord, ils ont quasiment une équipe SWAT pour savoir si t'as encore ton titre de transport. Puis t'arrives pour rentrer dans le métro, puis si t'as pas de masque, alors qu'on t'en offre un, ou t'en as pas pantoute, bien, tu ne reprends pas le transport en commun. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Puis, mais non, ça a l'air que c'est trop compliqué. Puis là, l'argument de la pauvreté, puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'un masque. Comment? Ça, c'est... Mais on ne veut pas. Alors, on le recommande très fortement. Puis ça va peut-être donner lieu à certaines tensions dans le métro quand un coco va rentrer, puis il n'y aura pas de masque. Puis qui va se mettre à tousser ou qui va être près de quelqu'un. Il y en a qui vont peut-être mal réagir. Alors, à surveiller donc les opérations de commerce, de magasinage qui reprennent aujourd'hui dans le Grand Montréal. On va aller retrouver Marc. Y a-t-il un peu plus de monde sur les routes? Oui, sur la métropolitaine déjà. Oui, bien ça, c'est sûr. Oui. Une autre place où il faut attendre. Merci, Marc. On parlait du commerce. Là, vous avez vu tout le débat sur les rues pour les piétons. La rue Sainte-Catherine-Ouest, entre Metcalf et Atwater, qui va être interdite aux voitures pendant les fins de semaine à compter du 19 juin. En résumé, la rue Sainte-Catherine va être fermée pas mal les fins de semaine aux voitures. Je pense que la semaine, il va rester une voie de circulation. Déjà que c'était étroit, là. Alors, tout ça, bien sûr, pour permettre aux gens de pouvoir respecter la norme de 2 mètres, des magasins qui rouvrent, puis bon. En passant, vous avez vu que c'est pas vrai que les commerçants de la Petite Italie sont ravis de l'initiative de l'arrondissement de fermer le tronçon, là, à partir, en fait, jusqu'à Jean-Talon, sur Saint-Laurent, à l'entrée de la Petite Italie, supposément pour permettre aux restaurateurs d'avoir des tables puis aux gens de circuler plus librement. Mais c'est toute la problématique qui est en cause du commerce local, puis d'une destination. Les gens qui viennent de l'extérieur pour aller au marché Jean-Talon. Là, je ne repartirai pas le débat là, sur les autos-vélos, là, mais quand vous parlez à quelques commerçants, là, la plupart ne comprennent pas trop c'est quoi l'initiative, puis qu'est-ce que ça va vraiment apporter de faire ça. Puis personne ne croit quand Projet Montréal dit non, c'est pour la période de la pandémie. Il n'y a personne qui pense sérieusement que ce n'est pas une façon de faire ce type de mesure et que ça ne sera pas jusqu'à un certain point de façon permanente, parce que vous ajoutez à ça les vélos express puis les rues fermées. Alors, je comprends qu'il y a moins de circulation automobile, mais un jour, ça va finir par reprendre. D'ailleurs, un mot sur les priorités de la Ville de Montréal. Vendredi, on apprenait que la Ville va faire adopter un règlement pour que les élus et les employés communiquent avec une nouvelle approche, la communication épicène. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Sérieusement, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, la communication épicène, c'est d'éviter que le masculin soit dominant sur le féminin, que tout ça remonte à une époque patriarcale et que faut arrêter de parler d'un garçon ou d'une fille, il faut parler d'un enfant. Faut pas dire que les policiers enquêtent, faut dire que la police enquête. Remplacer les mots habituellement masculins par des mots féminins le plus souvent possible. Et on donne un paquet d'exemples. Il y a eu un rapport qui a été présenté. Ça remonte à fin 2018, si mon souvenir est bon. Et là, il faut former les employés de la ville. Par exemple, on dira que, et je cite les cas là, qui sont donnés, « Là où le juriste veillera à la parfaite conformité du règlement adopté, faut dire maintenant l'ambulancière et l'ambulancier travaillent fort. » Et là, il y a un vote qui va se prendre au Conseil de ville aujourd'hui. Allô, la terre. Allô, la terre. La suprématie du masculin, là, c'est devenu une priorité du Politburo de Projet Montréal. Sérieusement, là, d'ailleurs, on a demandé hier pour pouvoir faire une entrevue qu'on nous explique l'urgence de la situation. T'sais, c'est juste que Montréal est une ville où les commerces en arrachent, les restaurateurs pensent à fermer. Il y a une écœurantite de beaucoup de commerçants face à des mesures prises par l'administration. L'industrie touristique est à terre. Tu sais, je veux pas être juste négatif, là. Puis nous autres, on délire dans les priorités de la ville sur la suprématie du masculin. Puis là, on va prendre du temps, de l'argent, des fonds-fonds pour former d'autres fonds-fonds à communiquer dans la nouvelle façon de la ville de Montréal. Alors, on fait une demande d'entrevue? Non, pas disponible. Ah non? Déposer une motion, vous n'êtes pas capable de venir nous expliquer ça. Le pourquoi de et pourquoi c'est urgent. Ça, c'est une stratégie maintenant qu'on commence à apprécier de la ville de Montréal. Là. Quand ça ne fait pas leur affaire, quand on n'est pas dans le club des admirateurs, ils ne sont pas capables trop de venir défendre leur point. Pas tous. Il y en a qui ont un certain courage. Mais hier, on dit non, on ne parle pas de ça. On passe notre tour. Hey, vous êtes des élus, là. C'est hallucinant de perdre du temps avec ces affaires-là. En pleine période de crise, là, tu sais, dans un contexte normal, on pourrait jaser, on pourrait discuter, mais là, on est en pleine crise. Je regarde le taux d'occupation dans les hôtels. On va parler avec le patron de chez Mousseau. On va parler avec Jean Bédard de la Cage aux Sports. C'est quoi le resto de l'avenir? Tu sais, on voit les commerces qui reprennent. Le tourisme à Montréal, l'occupation des chambres d'hôtel, je vous le disais, là, c'est très faible. Paquet de mise à pied, l'industrie touristique. Il n'y en aura pas de touristes à Montréal, vraiment, durant l'été. Puis je regarde, par exemple, l'Espagne, qui rouvre aux touristes dès juillet, progressivement. Puis là, avant de vous rendre là-bas, d'abord, je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés, mais il y a un paquet de mesures qui vont être prises avant le départ. Quand vous allez arriver sur place, on va vous tester. Avez-vous une preuve que vous n'avez pas la COVID? Sinon, vous allez vous retrouver en quarantaine. Quand vous allez revenir de là, vous allez être probablement obligé d'être aussi donc en quarantaine. Alors, même si pour l'instant, là, de façon globale, les frontières sont fermées. Alors, pendant ce temps-là, ben, la ville de Montréal a trouvé que c'était un grand débat, le débat du masculin. Évidemment, je suis un vieil homme blanc qui dénonce ce mouvement très progressiste de l'élite montréalaise. Mais c'est du délire complet, mais bon, on passe à autre chose. Dans les autres nouvelles qui sont reliées à la COVID, il y a ce débat sur les applications, l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut mettre la technologie au profit de la lutte contre la pandémie. Et vous avez différents courants d'esprit qui, je dirais, débattent de ça présentement. Et on va en parler aussi un peu plus tard avec Banjo, donc, qui est ce grand penseur, et qui, lui, est en compétition avec d'autres là, pour les applications. L'idée, c'est quoi? Puis ça amène des questions sur la protection des informations personnelles. Mais essentiellement, d'abord, c'est volontaire. Il y a un questionnaire à remplir pour établir votre profil. Et ça vous permettrait, donc, de savoir s'il y a des gens qui ont la COVID dans votre coin, si vous les croisez, par exemple, et si vous êtes à risque, peut-être de mieux vous protéger. Alors, se servir de cet outil-là comme pour essayer d'enrayer une deuxième vague. Et donc, il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur ces applications. Et ça veut dire qu'en principe, si quelqu'un a eu la COVID, a été testé, ben, il devrait, par son téléphone, être capable de... on devrait savoir qui ils ont croisé. Donc, toute cette information-là entre, qui a été en contact de façon significative avec eux. Et puis, en même temps, ça vous donne aussi une bonne idée pour ce qui est de la carte globale de la contamination. Donc, on va y revenir aussi ce matin, voir comment ça va s'articuler. Je regardais dans le Journal de Montréal, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui inventent des trucs ou tentent de convertir des trucs dans ce contexte-là. Alors, c'est une technologie qui, c'est pas compliqué, là, une entreprise de Trois-Rivières qui s'appelle Novelia. Et tu portes ça à ta ceinture, puis si tu ne respectes pas le 2 mètres, ça sonne. Alors, lorsque deux balises se retrouvent à moins de 2 mètres, elles sonnent, vibrent et s'illuminent les trois à la fois. Il faut que la personne ait aussi la balise en question. Rapidement, il y a le pic en santé mentale qui n'est pas atteint. Le chef de psychiatrie du CIUS de l'ouest de l'île pense qu'il y aura une augmentation du nombre de demandes en santé mentale durant la phase de déconfinement. La pression va sortir, dit-il dans une entrevue au Devoir. Et on a remarqué en Italie on a connu deux pics là-bas de patients abattus par la COVID, un pic de patients qui avaient besoin de soins physiques, puis aussi des gens qui avaient besoin de soins psychiatriques, la peur, l'anxiété, la difficulté de retourner au travail. Et là, beaucoup de choses également sur le télétravail. Ce matin, dans la presse, il y a le ministre qui dit que probablement qu'un employé sur cinq de l'État va pouvoir s'installer en télétravail. Peut-être pas, comme on dit, cinq jours semaine, mais en tout cas, c'est une valeur qui va être priorisée. Et pas que le gouvernement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont l'intention de faire la même chose. Encore là, faut-il être capable de bien s'équiper. Puis un mot sur Guy Laliberté, qui a annoncé hier à Tout le monde en parle, le communiqué a suivi, son intérêt de réunir des gens pour potentiellement racheter le Cirque du Soleil, qui croule sous les dettes. Et on sait que le Cirque a demandé l'aide du gouvernement du Québec. Alors, Guy Laliberté dit qu'il a réuni un groupe d'investisseurs. Lui a été actionnaire majoritaire jusqu'à il y a quoi, 5 ans environ. Et qu'il est prêt à faire une offre, mais il faut que ça soit une offre réaliste. Ça vaut combien aujourd'hui le Cirque du Soleil? Je regardais les chiffres qui étaient dans la presse ce matin, là, des revenus de à peu près quoi, 1 milliard et des profits de 115 millions. Sauf que là, l'annulation de tous les événements, puis des années plus difficiles, des spectacles qui ont moins marché. Alors, comme il l'a déjà dit, ça prend un renouveau créatif, puis ça prend aussi des partenaires financiers qui sont capables de supporter l'expérience. Et on comprend que lui veut reprendre ça, puis il dit que Robert Lepage, Dragon également, qui ont déjà travaillé au Cirque, sont prêts à l'épauler pour le volet créatif, pour redonner du lustre au Cirque du Soleil, pour éviter que des gens, des groupes comme ça, reprennent la marque, la bannière. Puis là, je pense qu'il visait assez clairement Québécois. Ça fait le tour de nos manchettes de ce matin. Il est 6h23. Allons voir ce qui se passe sur la 40.